la terre, sauver les malades, installer une politique extraordinaire, où il n'y aura même plus de politique, où simplement l'on partagera les biens du monde, les biens culturels, les biens financiers, tous les biens, même le bien spirituel. Comme s'il s'agissait simplement de mettre quelque chose sur la table et de le couper comme un gâteau pour que chacun ait sa part. Même la spiritualité ne se partage pas. Jésus-Christ est sur terre, Bouddha y a laissé aussi son empreinte car il n'est pas loin de la terre. Il est dans l'aura toute proche, si bien qu'on peut le dire sur terre. Des maîtres, des initiés sont sur terre et même dans vos cités. Et est-ce que vous avez l'impression d'être pour autant plus protégé, plus environné de divinité, de spiritualité, d'être veillé par les maîtres, de connaître les maîtres, de rencontrer les maîtres? Non, vous vous sentez seul, refoulé, perdu dans une jungle de non-sens où l'on rencontre autant de faux gourous que de gourous. Si donc vous vous sentez dans un tel état et que vous sentant dans un tel état, vous mettiez tout votre espoir dans un nouveau monde, si vous vous sentez dans un tel état, c'est parce que même présente, la spiritualité ne se partage pas. Il n'y a aucun Dieu qui puisse venir se montrer et par sa présence ou par son toucher vous rendre vous-même divin. C'est impossible. Celui qui imagine ce processus comme étant juste commet là un acte de désespoir. Et je le comprends profondément. Je le comprends avec toute mon âme et avec tout mon amour. Et je veux le soutenir. Si tu crois au nouveau monde, c'est parce que tu es désespéré. Ce n'est pas parce que tu crois dans le nouveau monde. Je le sais très bien, ne me mens pas à moi. Je connais ton âme. Je connais les recoins. Je connais tes crises. Je connais tes humiliations. Je sais très bien que tu ne crois pas en moi. Tu n'as jamais cru en moi. Regarde-moi quand je te le dis. Tu n'as jamais cru en moi. Tu ne croiras même jamais en moi. Et tu te moques complètement du nouveau monde. Car tu te moques bien que ton voisin meure. Car si tu avais vraiment envie d'un nouveau monde, tu te soucierais de la vie et de la survie de ton voisin. Mais tu te moques que ton voisin meure. Qu'il soit cancéreux. Qu'il soit déformé. Qu'il aille se suicider demain, ou que des inondations passent quelque part et emportent toutes les âmes, ou qu'il y ait des grands feux et que tout le monde soit brûlé. Tu te dis même, fort de ta connaissance, eh bien tant mieux, c'est la terre qui se réveille. C'est la terre qui purge le mal, qui enlève les mauvaises âmes, les mauvaises vibrations, c'est bien. Et quand toi tu t'écris que c'est bien, moi, j'ai envie de te dire, c'est toi qui es mauvais. C'est à cause de toi qu'ils sont en train de mourir. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils sont. Car eux, ils le sont en toute innocence. Et toi, tu les juges. C'est toi le coupable. C'est toi qui les mets à mort. Une seconde fois, tu tues leur âme et leur esprit. Alors, si tu veux véritablement non seulement concevoir le nouveau monde, mais quelque part, dans une petite part de toi-même, commencer à en être digne. Aime ton frère. Aime celui qui est difforme, celui qui est même diabolique, celui qui paraît même n'être qu'une larve astrale. Aime celui qui commet le crime ou le péché, comme vous dites. Aime celui qui est à l'encontre du nouveau monde. Car c'est en aimant que tu vas créer le nouveau monde. Ce n'est pas en te réjouissant de sa disparition, en applaudissant chaque fois qu'un torrent va emporter une de ses âmes noires et velues. Tu vas créer le nouveau monde au moment où tu vas sauter dans le torrent avec cette âme. Et que dans la tourmente, tu vas lui dire « Tu peux ne pas mourir. » Car le torrent qui t'emporte, vois-tu, n'est pas un torrent de mort. C'est un torrent de vie, mais d'une vie tellement forte que tu n'as pas su voguer sur son courant. Tu n'as pas su faire en sorte que l'eau passe à travers toi et te purifie et te grandisse. Alors apparemment, le courant est en train de t'emporter et regarde le rocher qui n'est pas loin, celui-là va te déchiqueter. Mais si tu m'écoutes, je pourrais te dire non seulement comment suivre le courant, mais en plus comment sautiller sur les rochers de façon à ce qu'ils soient des marches pour ton ascension et non pas des lieux de mort. Car toi qui crois dans le nouveau monde, si tu crois que le torrent ne va pas t'emporter, tu te trompes. Le torrent va passer sur tout le monde. Seulement il y aura ceux qui savent nager et ceux qui ne savent pas nager. Les énergies que l'on dit venir à l'heure actuelle pour changer, bouleverser le monde, le purifier et préparer le nouveau monde, ces énergies-là ne sont pas des énergies de mort. Ce sont des énergies de vie, car tout est vie dans l'univers. Il est impossible d'imaginer une seule seconde qu'une énergie de mort ou de châtiment se déverse sur la Terre. Il faut être logique avec la science. Et si vous réfléchissez par la logique, vous éviterez de nombreuses erreurs. Il n'y a aucune énergie de destruction dans l'univers. Il n'y a que des énergies de vie. Seulement, l'énergie de la vie est parfois tellement forte, elle régénère tellement puissamment, que dans la traînée, elle peut ressembler à une énergie de mort. C'est un peu comme lorsque vous allez de plus en plus haut dans la montagne et que vous rencontrez un air de plus en plus pur. À un moment donné, l'air est tellement pur que cela vous incommode. Avec les énergies, c'est exactement la même chose. Une formidable énergie de vie est envoyée sur la planète et pour certains, cela devient une énergie de mort. Parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir la vie de cette façon, à être cette vie. Alors cette vie-là, en passant à travers eux, les déchiquette, les démembre complètement. C'est pour cela qu'il ne faut pas penser que Dieu est en train de régler les comptes avec l'humanité et qu'afin de bien rentrer tranquillement dans le nouveau monde, les belles âmes élues vont contempler dans l'arène les vilaines âmes se faire déchiqueter par les vilaines énergies. Et ces énergies seraient envoyées par qui? Par un grand Néron que l'on appelle Dieu? Est-ce que cela ne vous rappelle pas un peu les jeux romains? Et si Dieu agissait de la sorte, ou si le Maître agissait de la sorte, oseriez-vous encore longtemps l'appeler Dieu? Oseriez-vous encore longtemps l'aimer, le louer, le trouver divin? Lui vouer votre vie entière, lui remettre votre âme, votre éternité? Mais si l'on me parlait d'un tel Dieu, je serai contre lui et j'essaierai par tous les moyens de le détruire et de le mettre à bas. Quand vous pensez de cette sorte, regardez votre pensée et sachez qu'à ce moment-là, vous pensez exactement comme un superstitieux qui veut se mettre du côté de Dieu. Face à Dieu et qui pour satisfaire Dieu, ferait le sacrifice d'une brebis, d'un agneau, d'un veau. Alors là, pour entrer dans le nouveau monde et pour que le nouveau monde soit et qu'il soit d'après les critères divins, sacrifions les âmes noires comme l'on sacrifie l'agneau et le veau et la colombe. Voyez dans votre pensée à quel point se glissent des archaïsmes, des superstitions qui à ce moment-là vous rendent aussi primaires que les gens des tribus anciennes, reculées de l'histoire. Et vous vous croyez civilisés parce que vous appartenez à l'Europe, à la race blanche, parce qu'il y a l'ésotérisme, parce que vous pouvez juger, parce que vous pouvez dire, penser comme Dieu. Et pourtant, c'est faux. Vous n'avez pas à imaginer que des hommes vont mourir ou que vous-même, vous risquez de mourir ou en tout cas que vous risquez de ne pas appartenir au nouveau monde. Le nouveau monde est déjà là. Il a toujours été là. Il n'est pas quelque part dans l'astrologie cosmique et planétaire. Le nouveau monde, ce n'est pas la nouvelle ère qui va venir. Le nouveau monde ne sera pas plus là qu'il n'est ailleurs. Le nouveau monde, il est en vous. Ou bien il n'est pas. Quand vous voulez parler du nouveau monde, pensez au nouveau monde. Écoutez simplement ce qu'a dit Jésus quand il parlait du royaume. Car en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Seulement, dans son esprit, l'homme mélange tout. Il mélange des airs, des âges, avec ses propres désirs, avec sa propre quête. Il fait une mayonnaise, une soupe de tout cela, et il se dit, eh bien, le Dieu que je veux rencontrer, la paix dont je rêve, le bonheur dont j'ai envie et qui est un bonheur divin, il sera là, dans le nouveau monde, pour l'ère des Verseaux. C'est faux. Il n'existera rien, je vous le dis. Il n'existera rien du tout. La nouvelle ère sera une nouvelle ère, parce que l'on y fera des choses différentes, parce que l'homme sera peut-être un peu plus proche de son frère, communiquera un petit peu mieux avec les énergies et commencera véritablement une phase d'éthérisation de la terre. Mais cela ne veut pas dire que les guerres vont cesser, que l'homme sera fondamentalement bon envers son frère, que l'amour va régner et que l'on sera plus près de Dieu. C'est faux. Alors il faut qu'en vous, vous sépariez la quête de simplement la connaissance de certaines circonstances, la connaissance des différences. Vous ne pouvez pas mettre tout ça ensemble et faire un beau paquet cadeau qui s'appelle le nouveau monde. Vous serez déçus. La quête est une chose, la nouvelle ère en est une autre. Maintenant, rien ne vous empêche de projeter des espoirs de paix pour la nouvelle ère, des espoirs d'amour, des espoirs de lumière. Faites-le, et je vous le demande, mais faites-le depuis votre intelligence, dans un acte conscient, et pas dans une diffusion, dans un éparpillement confus, dans une projection de tout ce que vous savez et qui ne concerne que vous, c'est-à-dire votre propre évolution, votre propre quête. La nouvelle ère, c'est ici et maintenant. Et cette nouvelle ère, elle vous concerne personnellement. Vous pouvez être déjà dans le nouveau monde, si vous êtes du nouveau monde. Et être du nouveau monde, ce n'est pas simplement être ou appartenir à l'ère qui va venir, c'est être avant tout du royaume et venir au nom du royaume et pour le royaume. Ça, c'est plus important que toutes les ères qui vont venir pour le Verseau, après le Verseau et bien après le Verseau. Pourquoi vous amuser à gagner quelques francs alors que vous avez toute la richesse en vous? Pourquoi vous efforcer de façon malhabile et indistincte à construire le nouveau monde et à persuader les autres de participer à cette construction si avant tout vous ne représentez pas et n'êtes pas le royaume? Il n'y aura aucun nouveau monde. Le nouveau monde, c'est donc la phase ou l'articulation technique de la vie de la planète. Cela ne correspond pas à des phases de votre vie intérieure. Votre vie intérieure vous appartiendra toujours en propre et ne dépendra jamais de la vie qui se passe à l'extérieur, que ce soit l'air du Verseau ou de quoi que ce soit d'autre. Par contre, une fois que vous êtes le royaume, alors vous pouvez participer à la construction du nouveau monde. Et là, vous serez utile parce que vous aurez les idées justes, les idées qu'il faut, des idées saines, des idées d'équilibre, des idées réelles, construites sur des fondations solides, des idées d'airain, et pas des rêves, des projections, des suppositions, pas de désespoir. Un homme qui sait ce qu'est le royaume et ce que sont les âges de la terre, c'est-à-dire les ères qui se succèdent, un tel homme ne connaît jamais de désespoir. Il ne peut pas être désespéré à cause des âges qui se suivent et qui développent par-ci par-là des tendances, soit techniques, soit astrales, soit mentales, soit philosophiques ou dévotionnelles. Il sait bien que tout ceci, ce n'est que des articulations, ce ne sont que des couleurs, des moments, des expressions nécessaires à certaines âmes pour aller plus loin, pour les amener à se poser en fait la seule et véritable question, celle de la quête. C'est pourquoi il ne faut pas tout axer sur le nouveau monde, mais rester très essentiel et avant tout penser au royaume et parler du royaume. Même si vous ne parlez jamais de nouveau monde, du moment que vous parlez du royaume et que vous inspirez le royaume aux autres, le nouveau monde aura lieu. Et il aura lieu par endroit, immédiatement. Et lorsque l'on mettra bout à bout ces petits bouts de royaume que sont les hommes, eh bien l'on s'apercevra que toute une nation est devenue le royaume, puis que tout un continent est le royaume, et que la terre entière, enfin, est le royaume. Pourquoi bâtir le nouveau monde? Pourquoi bâtir l'ère du Verseau alors que l'on peut bâtir le royaume? Je vous le demande. Pourquoi essayer de faire des exercices pour développer des sensibilités psychiques, la clairvoyance ou des dons divers, alors que vous pouvez être avant tout Dieu? Mais l'homme se fatigue à gagner quelques sous, ignorant qu'il est très riche. Il croit qu'il doit gagner sa vie Il croit qu'il doit gagner sa spiritualité, gagner des pouvoirs, construire des pouvoirs, des habiletés, construire un potentiel. Et il y passe du temps. Il y met de la sueur, de la souffrance, de l'espoir, du désespoir. Et lorsque nous le regardons et que nous contemplons sa torture, car il est torturé, nous ne savons que faire pour véritablement l'aider. Car la vérité, ce n'est pas de développer telle ou telle chose, ce n'est pas de gagner 10 francs. La vérité, pour ce fils héritier du Père, c'est d'accepter de rentrer dans la maison du Père, d'accepter d'aller à l'endroit du bassin, de se laver, de se vêtir comme est vêtu le Père, et d'aller voir le Père. Et lorsque le Père est rencontré, on s'aperçoit qu'il n'est pas le Père, qu'il est celui qui a toujours été l'homme. Lorsque l'homme allait péniblement gagner sa vie, gagner son ciel par ses efforts, il n'a jamais été le Père, un Dieu au-dessus de l'homme. Il a toujours été cet homme. Mais cette part de l'homme qui ne change pas, cette part qui est toujours elle-même et qui est la lumière. Alors l'homme, rencontrant le Père, ne comprend plus, car il ne voit rien, il ne se voit que lui, lui-même, en tant que Dieu. Et pendant un moment, sa tête est perdue. Il s'était, pendant tout ce temps, pendant le temps de ses efforts, puis pendant le temps de sa purification, puis pendant le temps où il revêtait son habit divin, il s'était préparé à rencontrer Dieu. On lui avait tellement dit que Dieu existait, on lui avait même décrit Dieu. D'accord, il avait très vite rangé les théories qui peignaient Dieu à l'image de l'homme, mais il avait bien accepté la théorie qui expliquait que Dieu était une énergie à plusieurs couleurs, à plusieurs rayons, que c'était en tout cas l'amour, ou peut-être même la force, que c'était lui qui avait créé l'univers, la nature, les autres hommes, et tous les règnes, toutes les formes, toutes les chaleurs, toutes les vibrations, tous les sons. C'est lui le créateur. Et l'homme se prépare, et il veut voir le créateur. Il attend le créateur. Et avec surprise, avec consternation, dans le temple, son temple, il n'entend que du silence. Tiens, est-ce que Dieu ne serait pas là où je l'attendais? Et il s'inquiète. Il se dit, se peut-il même que Dieu en fait n'existe pas? Se peut-il que l'homme ait trompé? Que l'homme ait raconté toutes ces histoires juste pour me faire arriver à ce point-là, pour me rendre fou, pour me faire crier de désespoir et me faire sentir que peut-être le paradis est pire que l'enfer puisqu'il n'y a rien. Le disciple imagine toutes sortes de choses parce qu'il se sent profondément seul, de manière malade, incurable, seul. Pour le maître et le collège d'aides invisibles qui assistent le disciple à ce moment-là, le travail n'est pas facile, car ils ne doivent pas faire de bruit. Ils ne doivent pas laisser soupçonner leur présence. Pas même par amour, pas même par une étincelle. Il doit y avoir le silence complet, le plus absolu, parce qu'il doit comprendre, il doit réaliser lui, le disciple qui est arrivé jusque-là, qui a su faire les choses pour venir jusqu'à cet endroit-là de la vérité et de la révélation. Il doit comprendre. Et il doit comprendre quoi? Les maîtres savent bien que s'ils font un seul bruit, s'ils envoient une seule image, tout est cassé, tout est fini. Le disciple ne comprendra pas parce qu'il va aimer l'image. Exactement comme le caneton prend pour père et mère la première chose mouvante qu'il voit, que ce soit une canne, que ce soit un chien, que ce soit un homme. La première chose qui bouge, c'est la mère, c'est le père. C'est la mamelle qui nourrit. Alors le maître se tait. Tous les anges replient leurs ailes silencieusement. Ils se retiennent même de respirer. Ils attendent que le disciple ait compris. Plongé au plus profond du désespoir, le disciple attend un geste, attend un bruit. Et croyant presque qu'il va mourir, désespérément, il ouvre tout ce qui en lui peut entendre, peut écouter, peut ressentir, et aucun écho ne parvient. Et sa folie, son désespoir, deviennent encore plus grands, encore plus tristes et déchirants. Mais le maître ne bouge pas. Il sait que la révélation est à ce prix, et qu'après viendra un plus grand bonheur. Lorsque fatigué, enfin, le disciple abandonne l'écoute et qu'il se dit « Non, peut-être je ne suis pas prêt. Peut-être que finalement ici, à cet endroit du monde et de l'esprit, il n'y a rien. Tant pis, je vais rester là, peut-être pendant des âges, mais je vais rester parce que je suis arrivé là. Peut-être une bonne âme viendra me chercher, me renverra sur la terre parmi les hommes. » Ou peut-être pour l'éternité, je suis coincée ici, entre ciel et terre, sans âme, sans Dieu, sans maître, sans force. Et au moment où il commence à abandonner, au moment où tout se relâche en lui, où tout s'abandonne, où plus rien n'est donc créé, plus aucune projection, plus aucun désir, plus aucune idée, plus aucun espoir. Automatiquement, il se sent glissé, doucement porté sur le trône. Et alors qu'il lui semble commencer à s'endormir, il regarde petit à petit autour de lui que les choses se transforment. Et comme des rideaux que l'on tire, le palais apparaît. Les lumières brillent, des sons commencent enfin à se faire entendre, des trompettes, plus loin des chants, puis des bruits de chars. Et tout le monde vient voir celui qui est né, car c'est une naissance. Et soudainement, il voit tout le peuple qu'il imaginait, qu'il essayait en tout cas d'imaginer, grâce à ses livres, grâce à ses rêves. Il voit tout ce peuple d'anges, d'êtres invisibles, de maîtres, tous ces êtres qui aiment, et qui soutiennent la lumière. Il les voit tous autour de lui, l'acclamer, faire la fête, le louer. Il se demande, mais pourquoi m'acclamez-vous? Qui suis-je? Mais je ne comprends pas. De quelle folie suis-je l'objet? Mais qu'est-ce qui se passe là-haut au ciel? Il y a un moment, c'était le silence complet, c'était la mort, et maintenant voilà que l'on fait la fête. Mais la fête à propos de quoi, je vous prie? Et alors les anges sourient. Ils se disent, tiens, en voilà un qui est monté sans avoir su vraiment comment il était monté, ni vraiment ce qui lui était arrivé. Et lorsque l'univers commence à rire, alors l'homme rit lui aussi et il comprend. Et à ce moment-là, il dit, j'ai compris. Maintenant, je sais. Je ne cherchais rien. Je n'avais rien à conquérir. Je n'avais rien à aller chercher, je n'avais personne à rencontrer. Tout est la vie. Et cette vie qui est en moi est exactement la même que celle que l'on appelle Dieu. Il me fallait simplement apprendre à rire, et rire, rire de toutes ces métamorphoses négatives qui m'ont fait être un jour un homme, un chercheur d'or, un occultiste, un alchimiste, un ésotériste, un yogi, un méditant, un moine. Un père de famille, une mère de famille, un suicidé, un malheureux ou un heureux. Mais pourquoi est-ce que j'ai cru à toutes ces métamorphoses alors que pendant des milliers d'années, je n'ai pas cessé d'être ce que je suis? Le principe de la vie, le roi de l'univers. Mais comment ai-je pu croire à ces chimères? Pourquoi? Tout est rire. Quand l'on contacte la vie, l'on commence à comprendre ce qu'est véritablement l'énergie de la vie, la nature de la vie. Tout est rire et l'on rit de tout. Et je veux vous prouver à quel point tout est rire. En vous démontrant que pour vous, tout est pleurs et larmes. Vous avez mal, vous pleurez. Vous êtes déçu, vous pleurez. Vous allez mourir, vous pleurez. Un autre est mort que vous aimez, vous pleurez. Si donc votre vie est tellement une expression de larmes, si donc votre vie est une grande larme, c'est que la vérité, c'est forcément le rire. C'est que la réalité, c'est forcément le rire, le sourire. Quand je parle de ce sourire, je n'évoque pas l'insouciance, le désintérêt. Je parle du sourire du sage, qui sait ce qu'est la chose et qui voit la chose essayer de l'attraper, essayer de le charmer comme un serpent charme sa proie. Et il regarde la chose s'agiter, essayer de faire des impressions. Et il regarde ce manège et il dit, mais tu n'es qu'une ombre. Qui essaies-tu de charmer, moi qui suis la lumière? Tu n'es qu'une ombre, je te dis, et tu me fais rire. Mais tu me fais rire comme je ris. Heureusement que toi tu t'agites parce qu'au moins j'ai une raison de rire maintenant. Et il prend le monde non plus comme l'endroit des épreuves, l'endroit des moments initiatiques, l'endroit du péché et de la purification. Il regarde le monde comme une grande agitation d'illusions enfantines qui essaie d'accaparer l'homme, de séduire l'homme, d'emprisonner l'homme. Et comme un enfant qui essaierait de vous entraîner dans son jeu enfantin, le disciple que vous êtes doit savoir sourire. Quand l'enfant vient vers vous et qu'il vous dit « Moi, je suis le chevalier, et toi, tu es le bandit, le chevalier noir que je dois attraper. » Est-ce que vous allez obéir aux vœux de l'enfant et véritablement vous transformer en chevalier noir et faire le mal et vous sentir être le mal et croire que lui, l'enfant, qui est le chevalier blanc, à Dieu pour lui, à la loi pour lui, et qu'il va vous combattre, vous pourchasser? Est-ce que vous rentrez dans le jeu? Non. Si vous vous amusez avec l'enfant, ce n'est que pour rire et vous mimer ces deux personnages. Et quand chacun, l'enfant et vous, vous vous libérez de vos personnages, vous vous retrouvez tel que vous êtes, et vous vous aimez vraiment? Celui qui veut véritablement concevoir la spiritualité et travailler à la spiritualité doit commencer par analyser ce que je viens de dire et le comprendre profondément. Sinon, il ne pourra jamais se tirer hors du jeu des contraires. Du blanc, du noir, du bien, du mal. Jamais il ne pourra. Il sera une fois le chevalier noir, et à force d'en avoir assez de recevoir des coups sur la tête ou des coups de pied dans les fesses, finira par devenir le chevalier blanc, et ce chevalier blanc poursuivra les chevaliers noirs. Donc le chevalier noir existera toujours. Que vous le soyez un jour ou que vous le combattiez un autre jour, il est toujours là. Et vous passez du noir au blanc et vous trouvez tout cela en fait très fatigant. Être bandit, c'était pas si marrant parce que on en meurt, parce que ce n'est pas la paix, parce que ce n'est pas facile. Mais être policier, qu'est-ce que c'est fatigant aussi? Parce qu'il faut traquer le bandit, il faut penser comme le bandit, se mettre à la place du bandit, faire comme lui pour se trouver à l'endroit précis où l'on pourra l'attraper. Donc, qui est véritablement le blanc et le noir? Est-ce que, parce que le policier veut capturer le bandit, est-ce qu'il est si blanc que cela? Ou est-ce qu'il ne vit pas simplement l'énergie du mal d'une autre manière? Puisqu'il va devoir penser comme lui pour pouvoir l'attraper. Quand je dis cela, je ne fais pas la critique du bien, des bonnes intentions, et je ne remets pas en question tous ceux qui veulent tenir l'ordre. Je parle par principe philosophique pour essayer de poser l'esprit au-delà du bien et du mal. Si l'on ne peut pas se mettre au-delà du bien et du mal, je préfère bien sûr que l'homme se positionne au moins dans le bien. Mais se positionner dans le bien, ce n'est pas encore la vérité. Si l'on veut véritablement être dans la vérité, que donc l'on ne peut plus concevoir le bien et le mal, comment pouvons-nous véritablement concevoir le monde qui lui va continuer à s'articuler en tant que bien et mal? On ne peut pas le nier, cela existe, et je ne renie pas la chose. Je vous dis simplement, ce qui fait que le bien et le mal existent, puisque l'on ne peut pas le renier, que l'on voit les effets de cette existence partout et tout le temps. Ce qui fait que le bien et le mal existent, ce n'est pas parce qu'ils existent comme des principes qui auraient été posés là par Dieu pour voir comment le petit rejeton nommé homme allait finalement s'en sortir. Et s'il arrivait à s'en sortir, eh bien, chapeau petit bonhomme, tu as mérité de devenir Dieu. Si l'évolution, si l'univers, l'articulation de sa vie reposait sur ce principe, mais je serais le premier à donner un coup de poing immense sur la table de la galaxie et à faire tout écrouler. Car le jeu serait complètement faux, stupide, aberrant, ignoble. Le bien et le mal apparemment ont une existence parce que le jeu de ces ombres et de ces lumières, ce jeu-là a réussi à séduire l'homme. Si bien qu'un jour l'homme séduit, regarde les ombres, puis un autre jour l'homme séduit, regarde les lumières, et il ne sait pas très bien où est la vérité. Alors il se dit: tiens, je vais aller voir les ombres. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Et puis, lorsqu'il est passé par la souffrance et par le karma, il se dit: non, je dois aller alors vers la lumière. Et il va vers la lumière. Et il s'aperçoit qu'en étant dans la lumière, il n'arrive pas à se défaire de l'ombre. Parce que le monde est comme il est. Ce n'est pas parce que vous aimez Dieu, que vous croyez en Dieu, que vous le priez, que vous méditez, que vous n'allez pas être demain victime d'une action négative, qu'il ne va pas y avoir un assassin qui rentrera chez vous pour vous tuer, un voleur pour vous voler, un violeur pour vous violer. Ce n'est pas pour autant que demain, en étant dans la circulation, un fou, un chauffard, comme vous dites, ne viendra pas percuter votre voiture, tuant votre enfant, votre mari, votre épouse, vous-même. Ce n'est donc pas parce que vous êtes dans la lumière que le mal va cesser d'exister. C'est ce que le disciple doit comprendre s'il veut enfin véritablement comprendre le monde, se comprendre lui-même et être un agent intéressant d'intervention pour le développement du monde. Ce n'est pas parce que vous parlez de Dieu que tout le monde va vous écouter. Ce n'est pas parce que vous parlez de Dieu et au nom de Dieu que tout va se préparer autour de vous pour vous accueillir, pour écouter votre parole, pour recueillir la parole et en faire des fruits utiles. Ce n'est pas pour autant que l'on va vous aimer, que l'on va vous louer, au contraire. On va vous tuer. On va vous déchirer, on va tout vous prendre. On vous volera. On cherchera les points incompréhensibles pour en faire des points obscurs et faire de la médisance. Plus vous représenterez la lumière, et plus le mal va exister. Parce que vous êtes la lumière. Comment donc être la vérité et regarder ce jeu des ombres et des lumières et pouvoir agir et les comprendre? Il y a quelque chose qui est au-delà de la lumière. On parle de Dieu comme étant la lumière. Et c'est vrai que c'est un mot facile à employer parce qu'ainsi tout le monde comprend ce que l'on dit, arrive à créer le concept dans l'esprit. Cependant, c'est un mot qui est faux. Et ceux qui étudient la Kabbale savent bien de quoi je parle. Quand la lumière existe, le phénoménal existe déjà. Dès que la lumière sort de Dieu, il y a automatiquement création des contraires. Donc la lumière, ce n'est pas la divinité. La lumière est une matrice dans laquelle la vie va avoir lieu. Alors il y a la lumière que l'on pourrait appeler astrale cosmique, celle qui sert donc pour créer les galaxies, les énergies, plus loin les formes. Et si l'on se rapproche vraiment de la planète, il y a la lumière astrale, celle qui sert à créer les règnes de la planète et à maintenir le manteau de vie de ces différents règnes, c'est-à-dire votre corps astral, dans lequel transite énormément d'énergie en provenance des constellations, en provenance du centre de la Terre. Et toutes ces énergies vous permettent d'exister. Si ces énergies sont mal captées, mal interprétées, mal distribuées, alors on dit qu'elles sont émotionnelles. Et ainsi, on dit que le corps astral est le corps de l'émotion. C'est vrai en apparence, mais c'est faux en vérité. C'est vrai en apparence si l'on se contente de regarder les effets de la mauvaise interprétation des énergies que font les hommes. Mais si l'on regarde fondamentalement ce qu'est le corps astral, c'est tout simplement un corps de vie et de vitalité. Sans votre corps astral, vous ne seriez même pas vivant. Sans l'astral cosmique, il n'y aurait absolument pas de création. L'astral, c'est la matrice. Et les kabbalistes savent exactement de quoi je parle. Car pour faire tout rituel, que ce soit un rituel individuel ou collectif, il faut commencer par imprimer dans l'astral des énergies et ordonner à ces énergies de construire des formes qui plus tard émettront des couleurs et des sons. Parce que si l'on ne fait pas cette construction dans l'astral, le rituel ne peut pas être vivant. Tout ce qui est à la base du rituel ne peut pas exister sans qu'il y ait matrice dans l'astral, c'est-à-dire un égrégore. Si donc l'astral est l'endroit de la pré-création, pour que sur un plan physique il y ait création et évidence de la création, c'est que le plan astral n'est pas fondamentalement ni véritablement le plan de l'émotion. Par contre, ces énergies créatrices, lorsqu'elles passent à travers l'homme, à travers ses différents chakras, et dans les chakras, à travers les différents pétales, selon comment vibrent ces pétales, selon comment le chakra ondule, cette énergie de création va donner lieu à un tempérament. Et lorsque, par exemple, un homme va recevoir l'énergie,